La Panacée, une émission qui vous veut du bien. La Panacée, une émission contre tous les maux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Escapade pour la première émission de La Panacée, votre rendez-vous santé naturelle de la semaine. Aujourd'hui, je vous propose de parler de contraception et en particulier le stérilet. Que vous soyez curieux, concerné ou simplement intéressé par les méthodes de contraception, restez avec nous pour la suite de l'émission de La Panacée. Et pour aborder ce sujet, je serai avec Fab, que vous connaissez bien. Nous rappelons bien sûr que nous ne sommes pas médecins, mais que nous partageons notre culture de la santé et du vivant.
Malika Cécile, pourquoi avoir choisi ce thème pour l'émission ?
Mais écoute, dernièrement, j'ai visionné un documentaire sur Arte qui parlait du stérilet. Et ça m'a vraiment interpellée comment à travers un objet devenu relativement banal, on pouvait traverser une histoire d'émancipation des femmes, de contrôle des naissances en période de guerre froide, ou même d'instruments de stérilisation de populations dans certaines parties du monde actuellement. Du coup, ça m'a donné un petit peu envie de creuser, de partager tout ça avec vous.
Pourrais-tu retracer l'histoire de la contraception ?
Alors, l'histoire de la contraception remonte à des millénaires, donc on va vraiment donner un petit aperçu pour remettre un peu les choses en place au niveau de l'évolution. Donc déjà, dans l'Antiquité, chez les Égyptiens, donc 3000 ans avant Jésus-Christ, on utilisait des mélanges à base de miel, d'acide et de plantes comme contraceptifs. Chez les Grecs et les Romains, il y avait déjà les prémices du préservatif, en cuir, en lin ou en boyaux d'animaux. Au Moyen-Âge, en Europe, la contraception était vraiment taboue puisque c'était considéré comme un péché par l'Église. Et donc, à cette époque, on a beaucoup moins de documentation sur le sujet. On sait que certaines femmes utilisaient des infusions d'herbes ou des éponges imbibées de substances acides comme moyen de contraception. Au XIXe siècle, il y a eu l'apparition des premiers diaphragmes et les préservatifs en caoutchouc se sont développés. Et il faudra attendre 1967 pour que la contraception devienne légale en France, avec le développement en parallèle du stérilet avec une ficelle, c'est un détail qui n'en est pas un, et de la pilule contraceptive. Au XXIe siècle, aujourd'hui, on a énormément de méthodes de disponibles, que ce soit des dispositifs intra-utérins, des méthodes hormonales, des implants, la contraception d'urgence, la contraception masculine, même si elle peine à se développer, elle fait quand même son chemin. L'histoire de la contraception, c'est quand même une histoire d'émancipation, de revendication de vie sexuelle libre et du choix de la maternité. Mais le stérilet, c'est aussi un objet qui est ambivalent, puisqu'il a été développé dans des conditions où le bien-être des femmes n'était pas du tout la préoccupation première. Et avant d'arriver à un modèle satisfaisant, le stérilet a été testé dans des pays du tiers-monde, sur des femmes en situation de handicap et sans consentement. Certaines ont pu développer des infections ou des grossesses extra-utérines. Et en Chine ou en Inde, le stérilet sans fil, ça veut dire qu'on ne peut pas le retirer soi-même, le stérilet sans fil a été utilisé dans de grandes campagnes de contrôle des naissances avec ou sans l'accord des femmes. Il faut avoir en tête que c'est peu coûteux, efficace sur plusieurs années et que ça ne nécessite pas l'éducation des femmes par rapport à la contraception, ni même leur participation. C'est pourquoi l'usage de ce petit objet s'est autant répandu.
Et actuellement en France, quelles sont les méthodes contraceptives les plus utilisées ?
Alors, selon les données publiées par l'INSERM en janvier 2023, 92% des femmes en âge de procréer, donc ça veut dire entre 15 ans et 49 ans, mais qui ne désirent pas d'enfants, utilisent un moyen de contraception. Ces moyens sont disponibles et assez nombreux, et à part la ligature des trompes ou la vasectomie, qui sont uniquement autorisées chez les personnes majeures, elles peuvent toutes être utilisées dès l'adolescence. Donc la méthode dont nous venons de parler, le stérilet ou dispositif intra-utérin, est un petit objet en forme de T, généralement en plastique ou en cuivre, que l'on va placer dans l'utérus pour prévenir une grossesse. Donc il en existe deux catégories, ceux en cuivre qui vont agir principalement comme spermicides, et les stérilets hormonaux qui vont libérer une petite quantité d'hormones pour empêcher l'ovulation ou rendre la muqueuse utérine impropre à la nidation. Le moyen le plus utilisé actuellement en France reste quand même la pilule, avec toutes ses variantes, première, deuxième, troisième, quatrième génération. En 2020, plus de 35 millions de plaquettes de contraceptifs oraux combinés, toutes générations confondues, ont été vendues en France.
D'ailleurs, Malika Cécile, peux-tu nous expliquer ce que signifie le terme « génération » pour une pilule ?
C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler de ces pilules première, deuxième, troisième et quatrième génération. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Les contraceptifs oraux combinés, également appelés pilules œstro-progestatives ou encore pilules combinées, sont celles qui sont les plus utilisées. Elles contiennent à la fois un œstrogène et un progestatif, d'où le terme « combiné ». Certaines pilules ne contiennent pas d'œstrogène et sont-elles appelées des pilules progestatives. Et finalement, c'est le type de progestatif qui va déterminer la génération de la pilule. Les pilules de première génération, commercialisées dans les années 60, contenaient un très fort dosage en œstrogène. Cette hormone était à l'origine de nombreux effets secondaires, comme le gonflement des seins, des nausées, des migraines, des troubles vasculaires. Et depuis le 15 novembre 2016, plus aucune pilule de première génération n'est commercialisée en France. Les pilules de deuxième génération sont commercialisées depuis 1973. Elles contiennent comme progestatif du lévonorgestrel ou du norgestrel. L'utilisation de ces hormones a permis de faire baisser les taux de stradiol qui étaient utilisés et ainsi de diminuer les effets secondaires dont souffraient de nombreuses femmes. En 2020, en France, toujours, 86% des femmes qui recourent aux contraceptifs oraux combinés prennent une pilule de deuxième génération. Deux nouvelles pilules ont fait leur apparition à partir de 1984. Il y a les contraceptifs de troisième génération qui contiennent différents types de progestatifs comme le désogestérel, le gestodène ou le norgestimate. La particularité de ces pilules est qu'elles sont moins dosées en estradiol, de façon à limiter encore davantage les désagréments comme l'acné, la prise de poids ou l'élévation du taux de cholestérol. En 2001, les pilules de quatrième génération ont été mises sur le marché. Elles contiennent encore de nouveaux progestatifs, comme le dospirenone, il y en a d'autres. Et à la suite du scandale de 2012 concernant les pilules de troisième et quatrième génération, de nombreuses études ont démontré qu'elles faisaient courir un risque accru d'accidents thromboemboliques, c'est-à-dire deux fois plus élevé que les pilules de deuxième génération. Par thromboembolique, vous pouvez comprendre la formation de caillots. Donc depuis, les gynécologues ont quand même tendance à privilégier la prescription des pilules de deuxième génération, sauf indication contraire. Et si la pilule qui vous a été prescrite ne vous convient pas, mieux vaut en parler le plus vite possible avec votre gynécologue ou votre sage-femme. Je vous propose d'écouter Rake Rake Nahar, interprété par Sharan Kamal et Govind Bajan. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'émission de La Panacée, une émission qui vous veut du bien. Babacharitariyan Rakenahar de Sharan Kamal et Govind Bhajan. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la suite de l'émission de La Panacée, une émission qui vous veut du bien. Avec Fab, aujourd'hui, nous parlons contraception. En résumé de la première partie, dans les contraceptions hormonales, vous trouverez le dispositif intra-utérin hormonal, donc le stérilet, qui est efficace à 99,98%. Avec certains effets secondaires possibles, comme des maux de tête, des douleurs, des gonflements abdominaux, de l'acné. Certaines personnes peuvent ressentir de la dépression, une baisse de la libido, voire une chute des cheveux. Il y a la pilule aussi, qui est très utilisée en France, qui est efficace entre 92 et 99,7%, avec éventuellement des effets secondaires tels que des maux de tête, peut-être une tendance à la dépression, des nausées, certaines douleurs mammaires. Parfois, les femmes peuvent prendre ou perdre du poids, développer de l'acné. Quelquefois, les règles sont irrégulières ou douloureuses. Il peut y avoir des sensations de vertige. La prise tous les jours à heure fixe est parfois difficile à tenir parfaitement, d'où la fluctuation de l'efficacité de ces pilules. On peut également utiliser l'anneau avec une efficacité de 92 à 99,7%. Il y a les patchs également qui ont une efficacité similaire. Parfois, il y a des réactions cutanées avec ces patchs ou des changements d'humeur, des migraines, un peu les mêmes effets secondaires finalement qu'on peut avoir sur les autres contraceptions. Alors évidemment, il y a beaucoup de femmes qui supportent bien la contraception hormonale et qui l'utilisent pendant des années sans problème particulier. Cependant, quand même, il faut noter que face aux effets indésirables possibles de ces contraceptions hormonales, au récent scandale des pilules de 3e et 4e génération qui ont augmenté le risque d'embolie, ou encore face aux considérations écologiques, puisque toutes ces hormones se retrouvent quand même dans l'environnement, il y a de plus en plus de Françaises qui se tournent vers des méthodes de contraception alternative, dites naturelles. Alors que ce soit la vieille méthode Ogino ou des méthodes plus sophistiquées qui existent aujourd'hui, on vous propose un petit tour d'horizon dans cette deuxième partie d'émission.
Malika Cécile, peux-tu nous expliquer la méthode Ogino ?
Alors, elle est relativement simple. En fait, pour une femme dont le cycle est régulier, ça c'est important, il suffit d'éviter d'avoir des rapports sexuels non protégés pendant les jours qu'on dit fertiles. Donc dans cette méthode Ogino, ces jours fertiles sont ceux qui précèdent et ceux qui suivent l'ovulation. Donc c'est une méthode calendaire avec une fenêtre de fécondité entre le 8e jour et le 17e jour du cycle. Sachant que quand on dit le premier jour du cycle, c'est le premier jour des règles. Donc c'est un calcul simple, calendaire de cycle, qui ne nécessite pas de frais particuliers, qui n'a aucun coût finalement. Par contre, il n'est pas fiable, vraiment pas fiable à 100%, puisque la période d'ovulation est variable, même chez les femmes qui ont un cycle régulier. Et c'est d'autant plus vrai en début et en fin de vie reproductive. Donc il y a quand même un risque de grossesse, donc c'est une méthode qui est parfois utilisée pour les personnes en couple, et si jamais il y a l'arrivée d'un bébé, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais qui globalement ne prennent pas de risque. Il y a quand même une fenêtre de 10 jours dans cette méthode où il est nécessaire de trouver une alternative, que ce soit l'usage du préservatif ou d'autres pratiques sexuelles.
De quelle autre méthode peux-tu nous parler ?
Bah, en contraception non hormonale, il y a quand même le stérilet au cuivre qui a une bonne efficacité. Donc certaines femmes le tolèrent bien, mais pour d'autres, les règles vont être plus abondantes, douloureuses. Ça va entraîner des contractions, une réaction inflammatoire. Donc voilà, c'est pas toujours bien toléré par les femmes. Sinon, on peut aussi parler de la symptothermie. Il y a beaucoup de personnes qui proposent d'enseigner aux femmes la symptothermie. C'est une méthode qui est arrivée dans les années 60, qui est un peu exigeante puisqu'il faut noter quotidiennement pendant plusieurs mois l'évolution d'au moins deux indicateurs sur trois, c'est-à-dire la température corporelle, les pertes cervicales et la position, texture du col de l'utérus. Certains spécialistes de la symptothermie recommandent même de prendre en considération les changements émotionnels, puisque ça peut être lié aux modifications hormonales chez la femme. Alors, il faut savoir qu'une fois expulsé, un ovule vit environ 24 heures. Les spermatozoïdes, quant à eux, peuvent survivre à l'intérieur des voies génitales de la femme entre 3 et 5 jours, parfois 7 si la glaire cervicale est très accueillante. Donc les moments de fertilité vont être les jours qui précèdent l'ovulation et le jour suivant l'ovulation. Donc ça fait une fenêtre de 8 jours par cycle ou de fertilité. En auto-observation de deux signes, donc la glaire qui est produite au niveau du col et la température corporelle, ou au troisième jour de température haute, il y a une possibilité de grossesse en principe qui est écartée. Le respect du... Donc ça implique... une certaine rigueur quand même. Les personnes qui sont dans cette méthode respectent bien leur cycle hormonal, ne prennent pas de traitements hormonaux, n'insèrent pas de corps étrangers dans leur corps, donc c'est un certain avantage. Ça permet de se reconnecter aussi à ces cycles, et donc du coup c'est quelque chose qui est très agréable. Ça implique aussi le partenaire pour que cette méthode soit efficace. Et globalement, on estime à 1% le nombre de grossesses non souhaitées avec cette méthode. Voilà. Elle est quand même un peu contraignante. Il y a une fenêtre de 8 jours où il est nécessaire de trouver une alternative. Abstinence, préservatif, un coït interrompu ou un changement dans la pratique sexuelle. Et l'autre chose où il faut être très vigilant, c'est que la température peut augmenter pour d'autres raisons que l'ovulation. Ça peut être à cause d'un virus, etc. Et donc du coup, ça rend quand même la méthode un peu risquée sur cet aspect-là. Après, il y a des choses un peu modernes, comme le Clear Blue Persona, qui a été développé. Il y en a d'autres. C'est comme des petits ordinateurs avec des bandelettes urinaires qui vont permettre de doser le taux d'œstrogène ou de LH pour identifier les différentes phases du cycle. Donc, il y a quand même un côté très rassurant, puisqu'il y a ce monitoring. De la même manière, c'est efficace entre 94 et 99%. Voilà le taux d'efficacité. Par contre, il faut effectuer des tests tous les matins. Il y a toujours cette fenêtre de 8 jours où il est nécessaire de trouver une alternative comme contraceptif. C'est adapté si et seulement si les cycles durent entre 23 et 35 jours. Si la pilule a été arrêtée depuis au moins 2 mois et qu'il n'y a pas de traitement antibiotique contre l'acné ou ce genre de choses, en dehors des périodes de préménopause, d'allaitement, de troubles des ovaires polykystiques, enfin, il y a énormément de choses qui peuvent faire que cette méthode n'est pas fiable. Et le coût est quand même relativement élevé puisqu'il faut acheter l'appareil.
Qu'en est-il de la contraception masculine ?
Mais parlons-en, parce qu'elle a quand même du mal à se développer, cette contraception masculine, et c'est quand même souvent, trop souvent, une question de femme, et ce serait vraiment bien que ça change. En matière de contraception masculine, bah, le choix est plus limité, et encore donc très minoritairement choisi. À l'échelle mondiale, 27% de la contraception est masculine, si l'on considère l'usage du préservatif, la vasectomie et le coït interrompu. Donc c'est vraiment un niveau très très bas qui finalement n'implique pas vraiment de traitements hormonaux. Ça peut s'expliquer par la maîtrise tardive finalement des mécanismes de production des spermatozoïdes par rapport à la connaissance qu'on avait sur le fonctionnement des ovaires. Ça peut aussi s'expliquer par la difficulté à bloquer peut-être des millions de spermatozoïdes par rapport à 1 ou 2 ovules chez la femme. Néanmoins, la contraception hormonale masculine associant un progestatif à de la testostérone a été testée et a montré un bon taux d'efficacité après 2 mois d'utilisation, donc un peu comme pour la pilule. Mais les développements n'ont jamais été poussés jusqu'à la commercialisation. Donc messieurs, vous ne pouvez pas trouver de pilule pour vous. La crainte des effets possibles de cette approche sur les fonctions et le désir sexuel masculin ou celle d'une atteinte à la virilité participent à ce retard clairement. Donc le genre de préoccupation qu'on a beaucoup moins eu à l'égard des femmes. Sinon, il y a quand même la contraception thermique pour les hommes ou le slip chauffant. Pourquoi ? Parce que la température des testicules est de 2 à 4 degrés en dessous de la température corporelle. Et c'est cette différence de température qui permet une spermatogénèse normale. Spermatogénèse, donc la production de spermatozoïdes. La méthode consiste donc à élever la température des testicules d'environ 2 degrés, ce qui va provoquer une inhibition de la production des spermatozoïdes. Donc ça se fait avec le port de sous-vêtements particuliers qui permettent d'avoir une certaine température au niveau du slip. L'intérêt, c'est quand même que l'homme est impliqué dans la maîtrise de la contraception et qu'il n'y a aucune prise hormonale. Après, il y a peut-être un impact psychologique sur ce symbole de virilité et de peur associée à la stérilité, donc même si ce n'est pas le cas, il n'y a pas... Et donc voilà, c'est pas toujours évident de s'approvisionner dans ce type de slip, mais ça se développe, donc n'hésitez pas, messieurs, à essayer. Et l'efficacité contraceptive, elle est valable qu'au bout de 2 à 4 mois de port, donc il faut quand même faire attention les premiers mois. Écoutez, nous vous invitons à discuter des différents modes de contraception avec votre médecin, votre partenaire, votre gynécologue, votre sage-femme, et de trouver la technique qui conviendra le mieux pour vous et pour votre couple. L'émission se termine et nous vous donnons rendez-vous dans un mois. C'était Malika Cécile, naturopathe et chroniqueuse, avec Fab pour Radio Escapade. Yeah, 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 yeah. La Panacée, une émission qui vous veut du bien. La Panacée, une émission contre tous les maux.